Amen. Et je vous invite à ouvrir la bonne parole de notre Seigneur dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, où nous lirons un passage. On lit souvent les deux premiers versets qui, effectivement, sont absolument cruciaux. Mais il est bon de passer aussi un peu au suivant. Donc on va commencer déjà par lire les deux premiers, et puis après on lira notre texte du jour qui, lui, commence au verset 3. Et qui va aller jusqu'au verset 13. Romains chapitre 12, verset 1er. Voilà ce que dit l'apôtre à ses lecteurs. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de la prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Et nous arrêterons ici. Voilà. Dans ce passage qui va depuis le verset 3 jusqu'au verset 13, nous avons plusieurs choses. L'apôtre parle beaucoup de la vie de l'Église et de la vie dans l'Église. Donc au verset 3, vous avez l'importance de l'humilité. Versets 4 et 5, vous avez la dépendance les uns des autres dans l'Église. Ensuite, du verset 6 au verset 8, vous avez une liste de 7 activités de l'Église avec les 7 dons qui s'y rattachent. Et enfin, du verset 9, verset 13, c'est ce qui doit absolument accompagner les dons spirituels, c'est-à-dire l'amour avec une douzaine de manifestations. Déjà, avons-nous vu en premier, verset 3, l'importance de l'humilité. Ce sera notre premier point. Vous savez, nous sommes par nature orgueilleux. C'est quelque chose qui nous colle à la peau. Dès que nous avons l'impression que quelque chose réussit, même dans notre vie chrétienne, on aurait facilement tendance à se dresser sur nos ergots, comme on dirait. Vous savez, d'après la légende, Michel-Ange peignait un pinceau dans une main et une chandelle dans l'autre pour empêcher que son ombre recouvre le chef-d'œuvre qui était en cours. Et c'est intéressant parce que je crois que c'est ce genre d'attitude qu'il est bon que nous puissions adopter si nous voulons vraiment exposer le chef-d'œuvre de la gloire de Dieu sur la toile de notre vie. Donc, malheureusement, on a tendance à vivre de manière à attirer l'attention sur nous-mêmes. Notre voiture, nos vêtements, notre carrière, notre poste, nos talents, notre réussite. Et vous savez, quand tout est centré sur nous, alors les gens ont du mal à voir Jésus en nous. Or, l'important, c'est Jésus, parce que Jésus nous a sauvés. Et nous a sauvés pour que nous puissions refléter sa gloire. C'est pour ça qu'il nous a sauvés. C'est dans Romains 8, verset 29 que c'est marqué. Et quand nous vivons pour nous-mêmes, alors notre ombre est projetée sur la toile de la présence de Dieu en nous. Lorsque les croyants de Corinthe se sont sentis trop imbus d'eux-mêmes, l'apôtre Paul leur a fait cette mise en garde. Il leur a dit « que personne ne se glorifie devant Dieu ». C'est dans 1 Corinthiens 1, verset 29. Et il leur a rappelé ce que Jérémie d'ailleurs avait déjà dit, c'est-à-dire que celui qui se glorifie dans le Seigneur. C'est dans le verset 31 de l'épître aux Corinthiens. Et Jérémie, c'est Jérémie 9, verset 24. Je crois qu'il est bon de considérer notre vie quelque part comme une toile sur laquelle on peint un tableau. Alors qu'est-ce que vous préféreriez que les gens voient ? Qu'ils voient le chef-d'œuvre de la présence du Seigneur ou bien est-ce qu'ils voient l'ombre de votre propre portrait ? Voilà, c'est ça la chose. Il ne faut pas qu'on fasse ombrage à ce grand tableau qui est en cours, mais que nous puissions vivre de manière à ce que les autres voient Jésus en nous. Amen. Vous savez, le manque de modestie, d'humilité, c'est vraiment un problème, une source d'ennui, de difficulté pour le chrétien, pour l'Église. C'est quoi la modestie, en fait ? La modestie, c'est un équilibre. C'est un équilibre. Ce n'est pas un sentiment de supériorité qui fasse qu'on juge les autres, qu'on se considère au-dessus d'eux, mais ce n'est pas non plus des complexes d'infériorité qui fait qu'on se croit incapable de tout. Donc, ça, ce n'est pas de la modestie, ça. Donc, et comment demeurer dans la modestie ? On a l'anecdote, l'image de ce roi. Ce roi qui était sur le trône et qui était un homme connu pour sa sagesse, sa pondération et vraiment sa bonne façon de conduire les affaires du royaume. Et c'était un roi qui ne s'enorgueillissait pas. Mais vous savez, tous les jours, il allait dans une chambre, dans une pièce où il n'y avait que lui qui allait, et il disparaissait pendant une heure. Et qu'est-ce qu'il faisait dans cette pièce ? On l'a su après, donc après la fin de son royaume. Ben dans cette pièce, il y avait dans un vieux coffre ses vêtements de berger, parce qu'il avait été berger autrefois. Et une fois par jour, donc, il rentrait dans cette pièce, il se revêtait de ses habits, de ses anciens habits de berger, il s'asseyait sur ce coffre et il méditait pendant un temps. Et ça faisait quoi tout ça ? Eh bien ça l'aidait à demeurer dans le souvenir de ce qu'il avait été, d'où il avait été tiré, et ça l'aidait aussi à demeurer dans l'écoute des pauvres et dans l'écoute des malheureux. Et il faut toujours que nous nous souvenions de là où nous avons été tirés, ou de là où nous aurions atterri si le Seigneur ne nous en avait pas tirés. Il faut toujours qu'on se rappelle de cela et toujours se rappeler ce que Christ a fait pour nous et ce qu'il fait encore pour nous d'ailleurs. Et ça, ça va nous aider à être dans une attitude légitime d'humilité. Tout ceci nous amène à notre deuxième grand point, les versets 4 et 5 que nous avons lus, c'est-à-dire la dépendance mutuelle, la dépendance les uns des autres. Vous avez dans ce passage plusieurs idées. La première, c'est que tous les membres n'ont pas la même fonction, mais tous les membres ont au moins une fonction. Et chacun est appelé à exercer le don ou les dons, avec humilité, bien sûr, puisque c'est dans ce cadre-là, en faveur de ses frères et sœurs. Et ceux qui n'ont pas encore découvert quel est leur don, quels sont leurs dons, nous sommes invités à les rechercher. Et comment est-ce qu'on va les rechercher ? Écoutez, le secret n'est pas difficile. Il suffit de se mettre à faire ce que Dieu met devant nous. Il suffit de se mettre à faire ce que notre main trouve à faire. Si nous commençons à faire ce que Dieu met devant nous, eh bien Dieu va conduire les choses de manière à ce que nous puissions exercer et découvrir le don ou les dons que nous avons reçus de sa part. Ce n'est pas plus difficile que ça. Et c'est de cette manière-là que les choses vont pouvoir se faire pour l'édification de l'Église, pour le bien des frères et sœurs, et en retour aussi pour notre propre bien. Amen. Et puis, vous savez, une autre chose qu'il faut rappeler, qui est aussi contenue là, c'est que tous les membres de l'Église sont dépendants les uns des autres. Lorsque vous allez dans les lagons sous les tropiques, c'est une expérience que j'ai lue, je n'ai pas vérifié ça moi-même, mais vous avez là toute une diversité de poissons coralliens. Ils sont dans les coraux, donc, et chaque espèce a des comportements particuliers. Certains vivent solitaires, d'autres vivent en groupe. Et les poissons-chats coralliens sont très venimeux et ils sont toujours en groupe. Et les jeunes poissons-chats vivent donc dans les eaux côtières qui sont peu profondes. Et en cas de danger, tout ce banc de poissons-chats se resserre. Ils se mettent en une boule compacte avec toutes les queues vers l'extérieur. Hein, toutes les queues venimeuses, donc, sont dressées vers l'extérieur. Pointées vers l'extérieur, ça veut dire que lorsqu'un prédateur arrive, il lui est impossible d'isoler un des individus pour s'en emparer. Et ce qui fait la force de ces poissons, c'est qu'ils sont ensemble. Hein. On le voit, cela. Un poisson chat tout seul, hein, il est vulnérable, hein, et sa survie est menacée. Mais entouré de ses congénères, ben, il n'a rien à craindre. Hein. Et cette même constatation peut s'appliquer aux chrétiens. Un chrétien isolé est en danger. Parce que vivre sa foi chaque jour, en respectant Dieu, en vivant dans la vérité, en aimant son prochain, en étant fidèle, en pardonnant, en étant patient, en étant un messager de paix dans notre monde, écoutez, c'est pas une sinécure. Hein. Ça ne peut pas se vivre facilement, ça ne peut pas se vivre tout seul. Hein. Donc il faut se souvenir de cela. Et c'est pour ça que l'Église, c'est le rassemblement de ceux qui ont placé leur foi dans le Seigneur, et c'est la famille spirituelle donc, dans laquelle ces fidèles se retrouvent, et ensemble, ils adorent Dieu, ensemble, ils se soutiennent mutuellement, ils s'encouragent mutuellement à tenir bon, à progresser dans la foi, et être pratiquant, comme on dit, c'est pas d'assister de temps en temps à un service religieux, mais c'est vraiment de mettre la vie en pratique, hein, je veux dire, la vie chrétienne, et puis de s'impliquer donc dans la vie de l'Église de l'Assemblée, et là, chacun peut mettre ses dons au service de tous. Amen. Vous savez, personne ne peut dire, moi, j'ai pas besoin des autres, aucun membre, aucun d'entre nous n'est complet en lui-même. Hein, même peut-être si le plus âgé parmi nous, le plus rempli d'expérience, a autant besoin de ses frères et sœurs que le tout nouveau qui vient d'arriver. Hein, donc faut se dire cela. Et c'est vrai que quand on se sépare volontairement ou par négligence de ses frères et sœurs, eh bien, vous avez une source de vie, de grâce et de bénédiction qui est véritablement coupée pour nous. Hein. L'important, c'est pas nous-mêmes. L'important, c'est le Seigneur et l'important, c'est son œuvre. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui est la première personne qui a atteint le sommet du mont Everest. On ne sait toujours pas. Vous savez pourquoi ? Parce que si on connaît les noms des deux premiers qui sont arrivés, l'un s'appelait Edmund Hillary, et puis il avait avec lui son Sherpa, qui était népalais, donc son guide Sherpa, qui s'appelait Tenzing Norgay. Donc, on sait qu'ils ont atteint, les deux, ensemble, ce sommet le plus élevé du monde, les premiers, c'est en 1953. Mais, étant donné que Tenzing ne savait pas comment utiliser la caméra, c'est Edmund, donc, qui a pris une photo de Tenzing pour prouver qu'ils avaient réellement atteint le sommet. Plus tard, les journalistes, lequel des deux est arrivé le premier? Ah, ils ont demandé. Et le chef, eux, ils n'ont jamais voulu le dire. Et le chef de l'expédition, John Hunt, donc, leur a répondu, ils l'ont atteint ensemble en équipe. Voilà. Et ça, c'est la bonne réponse. Hein. Ils étaient unis par un objectif commun et aucun ne se souciait de savoir qui devait recevoir le plus de mérite dans l'affaire. Hein. Et vous savez, c'est contre-productif hein, d'essayer de déterminer qui a le plus de mérite quand quelque chose a été fait, bien fait. Hein, voilà, vous savez, les croyants de Corinthe, justement, on y revient, ils étaient divisés en plusieurs factions, deux factions essentiellement. Vous avez ceux qui prétendaient qu'ils suivaient Paul, et puis ceux qui prétendaient qu'ils suivaient Apollos, hein, puis on le voit. Et puis Paul leur dit quoi ? Mais écoutez, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose. Hein. Donc, 1 Corinthiens 3, verset 7, il leur a dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Hein, voilà, vers la grande chose, et c'est Dieu qui fait croître dans le ministère, et en fait, c'est pas à nous de savoir qui a le plus grand mérite, mais c'est à nous d'attribuer la gloire au Seigneur. Hein. C'est ça le grand point et la grande nécessité. Amen. Alors j'avance un peu, et je vois mon troisième point maintenant, versets 6 à 8, vous avez une liste de 7 activités de l'Église avec les dons qui s'y rattachent. Hein. Vous avez déjà le don de prophétie, donc il est dit selon l'analogie de la foi, c'est-à-dire que ce soit de plus en plus conforme à la foi, telle que la parole de Dieu, ses doctrines, son enseignement nous y invite. Voilà, bien des choses seraient à dire, mais il est question aussi du ministère. En fait, ministère, la traduction littérale, c'est le service et la diaconie. Un diaconie, service, ça veut dire un service pratique. hein, qui est indispensable aussi dans la vie de l'Église, au salut des âmes, les services pratiques qui peuvent être rendus aux uns et aux autres pour le bien de chacun. Et il est marqué qu'il faut s'attacher à ce ministère. Il ne faut pas le négliger, il ne faut pas le considérer comme quelque chose d'inférieur ou, je ne sais pas, une espèce de tremplin pour arriver plus haut. Non, c'est vrai, il faut vraiment s'y attacher. Et ensuite, il est parlé de celui qui enseigne. Qui enseigne parce que, parce qu'on est devant cette nécessité d'enseignement. Hein, donc, il faut que les âmes qui se convertissent puissent avoir une foi qui soit solide, fortifiée, qui soit établie sur de bonnes bases et qui puisse ainsi être édifiée. Celui qui exhorte est-il question aussi ? Donc, ça s'adresse plutôt au cœur, là, ça s'adresse plutôt à la volonté pour une prise de décision, au sentiment éventuellement aussi. Donc, l'exhortation. Et puis vous avez celui qui donne, hein, celui qui a non seulement les capacités de donner, mais qui a l'état d'esprit de donner. Vous savez, il n'y a pas besoin d'avoir une immense fortune pour être de ceux qui donnent. Hein. Donc, le Seigneur le dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Hein. Déjà, vous avez cela. Et puis, voilà, vous avez encore d'autres valeurs, d'autres qualités qui permettent d'exercer cela. Celui qui préside. Hein, ce qui n'est pas présidé dans le sens, donc là aussi, ça nécessite bien du bon sens, ça nécessite bien de la sagesse, ça nécessite bien de l'équilibre et ça nécessite un grand esprit de service. Celui qui pratique la miséricorde, est-il dit enfin, hein, dans ce passage. Et là, vous avez dans le mot, non seulement la miséricorde, bien sûr, là on comprend peut-être ce que cela veut dire, mais vous avez la notion de pratiquer. Et pratiquer, ben ça veut dire qu'on ne fait pas juste une ou deux fois quand peut-être on est momentanément touché par une misère qu'on voit ou quelque chose comme ça, mais ça veut dire que vous avez une idée d'habitude, de persévérance, comme lorsque vous pratiquez un sport. Ça veut dire que vous allez régulièrement à l'entraînement, entre les compétitions, etc. Eh bien là, la pratique de la miséricorde aussi, c'est cette idée de régularité et de persévérance. Et puis j'avance un petit peu encore maintenant, mon quatrième chapitre, parce qu'il ne faut surtout pas le manquer, celui-là, parce que ce qui accompagne toujours les dons spirituels, c'est l'amour. Ça va du verset 9 jusqu'au verset 13, donc « que l'amour », voilà, est-il dit. Hein, et pour que les dons dont on vient de parler, porte du bon fruit, il est indispensable qu'il soit exercé dans l'amour. C'est le premier fruit que porte l'esprit dans lequel tous les autres sont contenus. Dans Galates chapitre 5, verset 22, rappelez-vous, il est marqué là, donc, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. En fait, si vous voulez vraiment traduire exactement, c'est le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et après, vous avez deux points. La joie, la paix, la patience, la persévérance, la bonté, la bénignité, la douceur, la maîtrise de soi. Ça veut dire que tout ce qui suit derrière, bien, ça doit être empreint d'amour, voyez-vous ? Donc ça, c'est le grand point, c'est celui-là. Hein. Et vous pouvez remarquer, entre autres, lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 14, ces chapitres qui nous parlent des dons spirituels, bien, nous apercevons toujours qu'entre les deux, il y a le chapitre 13. 1 Corinthiens 13, c'est quoi ? C'est le chapitre de l'amour. Hein, donc, on le voit clairement, tout entier consacré à l'amour. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et il est marqué que l'amour soit sans hypocrisie. Donc, ça veut dire que si on a du mal à aimer quelqu'un, eh bien, il faut qu'on demande au Seigneur son soutien et son esprit pour l'aimer en vérité. Amen. Hein. Et Dieu veut nous aider aussi en cela. Je dirais que quelque part, l'amour, dans ce passage, est un peu comme un joyau. Une pierre précieuse qui a été taillée et qui a 12 facettes. Et ces facettes sont décrites dans ces versets qui suivent. Vous avez le premier aspect, c'est « ayez le mal en horreur ». L'amour vrai, l'amour qui vient de Dieu, il est ce que Dieu est. Et c'est quelque part un baromètre pour voir la qualité, pour voir la croissance aussi de notre amour. Si nous haïssons le péché. Donc ça peut paraître surprenant concernant l'amour comme premier caractère cité, mais nous voyons malgré tout que c'est indispensable. Ensuite, il est marqué « attachez-vous fortement au bien ». Voilà. Donc ça veut dire que l'amour aime ce que Dieu aime, et plus nous l'aimerons, et plus nous aimerons aussi sa parole, et plus nous aimerons la communion avec lui, plus nous aimerons la louange, plus nous aimerons la prière, ce moyen précieux de faire sa volonté, etc. Hein ? Et puis il est marqué encore, soyez pleins d'affection les uns envers les autres, au verset 10, hein. Troisième élément, troisième facette, dirais-je, de ce joyau. L'amour, c'est le lien qui unit les membres de la famille de Dieu. Donc, faisons le tour de nos frères et sœurs, de notre esprit, et veillons. Veillons à être et à demeurer plein d'affection envers tous. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, demandons, repentons-nous déjà, puis demandons au Seigneur de nous aider à ce que ça puisse être vraiment le cas. Amen. Je rajoute encore, verset 10, usez de prévenance réciproque. Vous savez ce que c'est que des prévenances ? Des prévenances, c'est de faire du bien à quelqu'un sans attendre qu'il nous le demande. Des prévenances, c'est d'avoir du respect à l'égard d'une personne, par exemple, ou c'est de chercher ce qui va pouvoir lui faire plaisir, ce qui va pouvoir lui être bénéfique, donc avant que cela nous demande. C'est, dans le mot prévenance, c'est prévenir, hein, c'est-à-dire voir d'avance, discerner d'avance. Hein. Une autre traduction possible, c'est « soyez empressés à honorer les autres » ou « considérez les intérêts des autres avant vos propres intérêts ». Et puis ensuite, vous avez aussi « ayez du zèle et non de la paresse ». Ah ben c'est là, bien souvent, qu'est toute la différence. C'est pas seulement dans les choses qui doivent être faites, mais c'est dans la façon et dans l'état d'esprit avec lesquels elles doivent être faites. On rappelle toujours que dans l'Antiquité, la bataille des Thermopyles, dans un étroit défilé qui permettait d'accéder donc à une grande partie de la Grèce, a été gagnée par quelques centaines de soldats spartiates face à une immense armée de dizaines de milliers de soldats perses. C'était gagné, pourquoi ? Bien parce qu'ils avaient déjà, bien sûr, cette position avantageuse, mais aussi, c'est surtout, parce que ces hommes étaient exercés, ils étaient motivés, ils étaient enthousiastes, ils étaient zélés. Tandis que les autres, ben, ils venaient à la guerre parce qu'ils étaient obligés, et puis qu'ils étaient obligés pour... On les faisait avancer à coups de fouet, on les faisait avancer au combat à coups de fouet. Et puis, je ne sais plus quel auteur antique a dit, pour résumer cette bataille, quelques lions au milieu d'un grand troupeau d'agneaux. Voyez-vous, hein, il a résumé ça de cette manière-là. Mais ça nous montre l'importance d'avoir du zèle. Et ça nous montre la nécessité. Hein. Si nous avons du zèle pour le Seigneur, eh bien, nous gagnerons des victoires. Et c'est vrai que l'amour ne connaît pas ces demi-mesures. Il est dit encore, et ça va dans le même sens, soyez fervents d'esprit. Et là encore, cette idée qu'il y a là, c'est cette idée d'enthousiasme. Hein. L'amour a l'ardeur et la chaleur de la flamme. C'est Emerson qui a dit « Tous les grands mouvements de l'histoire sont le triomphe de l'enthousiasme ». Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà mangé des chewing-gums, en français ça se dit « Wrigley », comment ça se dit en anglais, je ne sais pas, ouais. Wrigley, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, qui a été, au moins pendant un temps, le premier producteur mondial de chewing-gum. Il faut quand même se souvenir que le fondateur a commencé avec $50 en poche. Hein. Il a commencé comme ça. Et 30 ans plus tard, il vendait chaque année pour plus de $30 millions de chewing-gum dans le monde. Donc, maintenant, je ne sais pas où ça en est en ce moment. Donc. Mais sur le mur de son bureau, il avait une inscription, une devise. Et c'était la chose suivante. Rien de grand n'a jamais été accompli sans enthousiasme. Et c'est vrai. Et l'enthousiasme, c'est un mot intéressant parce que quand vous étudiez l'étymologie, ça, vous avez le mot « en » ou « en » en début, « en », ça veut dire « dans ». Et puis ensuite, vous avez « théos ». « Théos », c'est « Dieu ». Ça veut dire l'enthousiasme en Dieu. Ça veut dire Dieu en nous ou alors nous en Dieu. Ça dépend comment on peut le voir. Mais ça montre qu'en quelque sorte, on est presque possédé par Dieu, si on peut parler comme ça, hein, donc de cette manière-là. Et donc, c'est cet enthousiasme-là qui est véritablement une force, et c'est que nous avons le désir, malgré tout, d'être remplis du Seigneur, d'être remplis de Dieu et de son Esprit. Amen. Et puis il est marqué encore « Servez le Seigneur ». Verset 11, oui, c'est vrai. « Servez le Seigneur avec cette flamme d'amour qui brûle pour le Seigneur et que nous ayons à cœur de répandre son évangile. Hein, » Au XIXe siècle, il y a eu un violoniste. Personne ne croyait à ce qu'il avait dit à quelques-uns. Il expliquait, il disait qu'il avait chez lui 116 violons, dont 4 Stradivarius. Et on n'y croyait pas. On n'y croyait pas parce qu'il vivait tellement misérablement. Hein. Et puis quand il est mort, on a découvert que c'était la vérité. Hein. Il avait effectivement ça chez lui. Et il était tellement dévoué au violon, si je peux dire. Moi, j'appelle ça vraiment de l'avarice. Hein. Enfin, il avait privé le monde de leur musique. Et je dirais que c'est un risque, hein. Là aussi. Combien de chrétiens qui attachent une grande valeur à leur propre salut, mais qui le gardent pour eux-mêmes sans jamais le partager avec d'autres, voyez-vous, hein, parce que ça c'est aussi vraiment, ça c'est quelque chose de terrible quand on pense à cela. Réjouissez-vous en espérance, est-il dit au verset 12, parce que cette joie, ça entretient aussi la flamme de l'amour. Amen. Et là, c'est un serviteur de Dieu qui s'appelait le frère Rainy, donc c'était en Grande-Bretagne, et puis un jour, il a eu un petit enfant dans la famille où il logeait. Il était venu faire une série de réunions, donc il était là pendant un certain temps. Et puis, cet petit enfant, il a dit à sa maman, écoute, il y a le monsieur, le serviteur de Dieu, là, qui vient chez nous, je crois qu'il va au ciel toutes les nuits. Il doit aller au ciel toutes les nuits, parce que quand il descend le matin, il est tellement rempli de joie, alors il doit aller au ciel toutes les nuits. Et ce frère, sa devise, c'était « La joie, c'est le drapeau qui flotte sur le château du cœur quand le roi de gloire y habite. Amen. » Alors nous avons vraiment des raisons d'être dans cette joie aujourd'hui. Béni soit le Seigneur. Si le Seigneur est dans votre vie, alors vous avez des raisons d'être dans la joie. Amen. Amen. Et puis il est dit encore, soyez patients dans l'affliction, là aussi, ben c'est vrai, hein, au verset 12, là aussi l'amour supporte tout, et ça aussi c'est un grand moyen d'accomplir une œuvre, hein. C'est Stanley, donc, qui était parti à la recherche de Livingstone, donc là nous sommes au 19e siècle, nous sommes donc dans l'Afrique centrale, donc dans des régions qui à ce moment-là étaient pour beaucoup d'entre elles extrêmement, tout à fait inconnues, hein. C'était extrêmement redoutable, toutes sortes de façons. Livingstone était parti, et puis on avait perdu sa trace. Et voilà que Stanley, qui était un journaliste célèbre, entre autres, un explorateur, a lancé une expédition à un grand renfort de publicité pour aller le rechercher. Et puis Stanley n'était pas spécialement croyant, il n'était pas chrétien en tout cas. Hein, donc, donc il a réussi à rencontrer Livingstone, et il a vécu avec lui pendant tout un temps. Il a vécu avec lui pendant tout un temps et il est devenu chrétien. Et Stanley est devenu chrétien. Il a dit, écoutez, Livingstone ne m'a jamais parlé à moi-même une fois de mon âme. Il m'a parlé une fois du salut, il n'a jamais cherché à m'influencer. Mais il dit, j'ai été tellement frappé par la patience et l'amour qu'il déploie à l'égard de ceux qui sont autour de lui que je suis moi-même devenu chrétien. Et ça, vous savez, ça nous parle. Bien sûr, on peut parler, il faut saisir les occasions pour témoigner de ce que le Seigneur peut faire, mais souvenons-nous de la force d'un comportement, d'une attitude, de l'attitude de quelqu'un qui est patient dans l'affliction et qui manifeste cet amour. Et puis ensuite, le dixième point, au verset 12, c'est persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière, oui, parce que la prière garde quelque part au joyau de l'amour tout son éclat. Lorsqu'on prie pour les frères et sœurs, on entretient l'amour qu'on a pour eux. On l'entretient, puis on le fait grandir. Si on arrête de prier, ben notre amour des âmes se refroidit. Hein. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'il faut rappeler, l'importance de la prière. Et puis c'est quand on prie avec persévérance, hein, persévérer dans la prière, c'est là que Dieu répond. Et là encore une anecdote qui a été aussi très impressionnante, c'était en 1917, donc c'était pendant la Première Guerre mondiale, et c'était au Moyen-Orient, et là le général anglais Allenby se trouvait devant un choix cruel, parce que ou bien bombarder Jérusalem et la prendre aux Turcs, donc c'était qu'on luttait contre les Turcs, et ou échouer. Alors il ne pouvait pas se résigner à bombarder la ville sainte, parce qu'il était chrétien, il croyait, il était croyant, un vrai croyant. Et puis, il a télégraphié à l'état-major qui s'en est remis à son appréciation personnelle, il a dit, écoutez, c'est vous qui voyez, c'est vous qui êtes sur place, c'est vous qui jugez. Alors, malgré tout, il était toujours angoissé, il se sentait incapable d'assumer une responsabilité pareille, et il s'est adressé au roi d'Angleterre lui-même. Et le roi d'Angleterre lui a répondu, priez, priez, eh oui. Et le général a obéi, et il a prié. Vous savez ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a que deux parlementaires turcs qui sont arrivés bientôt en portant un drapeau blanc. Donc, ils venaient traiter de la reddition de la capitale. Et donc, descendant de son auto, à pied, tête nue, Allenby est entré dans la ville où le sauveur, son sauveur, avait été crucifié. Jérusalem a été conquise sans un coup de canon. Hein, donc c'est quand même quelque chose, et il faut se souvenir que Dieu écoute ceux qui prennent le temps de prier et qui persévèrent dans la prière. Hein. Donc voilà, c'est aussi pour cela que nous sommes là ce soir. Le verset 13 nous dit encore, pourvoyez aux besoins des saints. Un cœur aimant, oui, et une bourse ouverte, eh bien c'est quelque chose qui vont de pair. Et puis il est question aussi d'exercer l'hospitalité. Et là, quel travail merveilleux pour le Seigneur peut également se faire. Hein, quel travail admirable d'évangélisation et de communion. Alors, en conclusion, rappelons-nous, eh bien, au départ, vous avez cette humilité qui est indispensable à la vie de l'Église, à notre propre piété. Ensuite, les dons à mettre en pratique, que nous pouvons rechercher. Rappeler aussi la dépendance des uns des autres. Et enfin, ce qui accompagne toujours ces dons, c'est-à-dire cet amour. Béni soit notre Dieu. Amen. Amen. Sois béni, Seigneur, pour toutes tes grâces envers nous. Merci pour le soutien que tu nous donnes encore par ton esprit, par ta parole, pour pouvoir avancer dans ton chemin, Seigneur, pouvoir le faire chacun dans notre vie et aussi ensemble, comme tu nous as unis, Seigneur, par ton esprit et par ta puissance. Béni sois-tu, parce que tu es toujours le même, parce que tu as accompli encore tes promesses, parce que tu as encore un avenir, une espérance pour tes enfants, Seigneur. Tu te manifestes, tu te glorifies encore pour cela. Amen, Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Nous avons quelques annonces. Je vous rappelle la prédication et le témoignage en ligne, donc vendredi à 20h15 sur le site de l'Église. L'évangélisation samedi dans les villages, donc rendez-vous ici à 14h30 donc, pour continuer dans les boîtes aux lettres. Le culte dimanche à 8h30 puis à 10h45. Si vous voulez y participer, inscrivez-vous dès que possible, soit sur le site, soit par téléphone. Aussi une chose, à partir du 16 juin, la réunion de prière reprendra l'ancien horaire, c'est-à-dire 20h15 de mercredi, en raison du couvre-feu qui est repoussé à 23h d'ici là, enfin normalement, hein, et puis aussi de la reprise d'une partie de l'école du mercredi l'après-midi. Hein, donc mercredi après-midi, on va recommencer avec un groupe d'enfants. Donc mercredi prochain, c'est comme aujourd'hui, hein. Donc, c'est le mercredi suivant que ça changerait. D'accord ? Et sinon, je vous annonce aussi l'Assemblée générale de l'Association cultuelle de l'Église, donc l'Assemblée générale annuelle, qui doit se tenir le samedi 19 juin à 14h30. On a une convocation qui va être affichée au tableau là-bas au fond pour cela. Donc, voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia.